France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Un patrimoine radiophonique.
Dans leur série consacrée en 1976 aux maîtres du roman populaire français ou francophone, plongée sur un air d'accordéon dans la période de maturité du genre, l'héritage est assumé. Et désormais, les femmes, à leur tour, s'engagent en pionnières à la découverte de ce prolifique continent littéraire. Après ce que les auteurs ont classé en rocambolesque, en prélude aux romans policiers, après l'essor des romans d'aventure et des romans de cap et d'épée, l'histoire ne s'arrête pas et les lecteurs en redemandent. La peinture sociale mêlera savamment les mœurs d'émancipation et les catastrophes politiques de la Commune à l'affaire Dreyfus. Avec Yves-Olivier Martin, Jean Leclerc, Léo Mallet, Jean-Claude Derepré, Roland Stragliati et Jean-Louis Bory.
La Mendigote. Médinette et nouvelle riche, mortes et vivantes, la môme aux beaux yeux, aimée de son concierge, la ronde d'amour. Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux titres évocateurs que les éditeurs de la fin du XIXe siècle et du début du XXe proposaient à leurs lecteurs et aussi, bien entendu, à leur lectrice. Du rêve, de l'émotion, de l'amour, de la vengeance, tout cela pour 65 centimes dans des séries devenues célèbres et collectionnées aujourd'hui par des nostalgiques ou des spécialistes, souvent les deux. Nous allons, comme d'habitude, avec l'aide savante de nos amateurs et critiques, parcourir quelques pages de ces œuvres de chasteté flétrie de Charles Mérouvel à la porteuse de pain de Xavier de Montépin.
Yves-Olivier Martin, les belles années du roman populaire se signalent en particulier par la naissance de la fameuse collection à 65 centimes de chez Fayard, entre autres, bien sûr. Et toujours sur le problème des origines, est-ce qu'on peut esquisser une approche de ces fameux romans populaires? Est-ce qu'on peut en trouver l'origine? Est-ce qu'il y a eu un démarrage lent? La collection n'est pas née comme ça brusquement, on n'a pas commencé d'écrire Chaste et flétrie tout de suite. Il y a eu une certaine approche, je pense. Quelques auteurs qui se sont signalés.
Autour du roman populaire, oui. Oui, puisque les premiers auteurs, c'est Eugène Sue, c'est Dumas, c'est Féval. Il y a une approche certaine du roman social, puisque chez Sue, c'est surtout le roman social. Mais en même temps, c'est déjà aussi le thème de Séduite et vengée, puisque l'histoire de Fleur de Marie, c'est déjà l'histoire d'une séduction, d'un rapt. Et le rapt, on va le retrouver dans le roman féminin. Le rapt, la séquestration, l'adultère. Le viol, au fond, on retrouve tous ces éléments dans les Mystères de Paris, déjà. Et Eugène Sue est capital en ce sens qu'il annonce tout le développement du roman populaire.
Dans le cadre du roman féminin, justement, est-ce qu'à l'origine, on parlait des romans féminins, mais ça n'était pas seulement parce que les auteurs étaient des femmes, mais c'est parce que ces romans étaient aussi, et surtout, destinés aux femmes.
Oui.
Alors, quels ont été ces auteurs féminins du début, de la fin du 18e, du début du 19e?
Eh bien, il y a une chose curieuse, c'est que, justement, à la fin du 18e, il y a plusieurs femmes de lettres qui surgissent, au début du 19e, et pratiquement, on peut voir que il y a surtout des auteurs féminins, quoi. Puisque Madame Cottin commence à écrire à la fin du 18e, après c'est Madame de Saint-Venant, au temps du Consulat et au temps du Second Empire. Et Madame Cottin est l'auteur le plus lu, l'auteur féminin le plus lu, et c'est déjà des lits. Par exemple, dans Rose d'Albe, dans Claire d'Albe plutôt, c'est l'histoire d'une jeune fille infortunée qui est séparée de son amant par suite des oppositions de fortune. C'est un des grands thèmes du roman féminin.
C'est le thème des romans de Delis, exactement.
Exactement, hein. Des romans de Delis. Et elle était aussi lue des lits. Et alors, vers le milieu du Second Empire, le roman féminin est plutôt écrit par des auteurs masculins, puisque c'est Feuillet, quoi. Feuillet et Abou, qui ne sont pas des auteurs populaires à proprement parler, mais qui prennent des thèmes du roman populaire. Et vers la fin du 19e siècle, vous avez des auteurs comme Louise Gagneur, moins Louise Gagneur, mais René d'Anjou.
Et Olympe Audouard.
Et Olympe Audouard, qui est un auteur féministe. Ah ben vous connaissez Olympe Audouard, auteur féministe, est assez curieux, puisqu'elle a essayé d'acclimater l'hypnotisme, enfin les histoires de tapes tournantes au temps du Second Empire. Les tapes tournantes sont venues d'Amérique, en France. Et Olympe Audouard a fait une série de conférences aux États-Unis où elle a parlé de l'hypnotisme, des tapes tournantes, et en même temps c'était une féministe presque enragée, quoi. Elle était une des premières pionnières du féminisme. Et ces romans, en effet, sont des romans féminins, mais d'aventure aussi.
Est-ce que, justement, cette période n'est pas une période charnière en ce qui concerne la condition féminine, qui a été illustrée dans une grande partie des romans populaires de l'époque?
C'est certain. Sous l'influence des idées féministes qui sont déjà développées autour de 1848, il y a beaucoup de journaux féministes à ce moment-là. Il y a une représentation de la femme misérabiliste aussi. On insiste sur la petite innocente qui est battue par ses parents, sur la jeune fille séquestrée ou violée. Il y a une féminisation, mais une érotisation aussi, évidemment relative. Il n'est pas question de faire du porno, mais quand même, il y a des pages qui sont souvent célestes. Et il est certain que le personnage principal se féminise beaucoup vers 1880. Et il y a une évolution très sensible du roman populaire à ce moment-là. D'ailleurs, chez Richebourg, par exemple, comme chez Pierre Salle, ce sont surtout des histoires d'adultère, des histoires d'opposition, de fortune, qui empêchent les jeunes gens de se marier. Le roman tourne vraiment au roman rose, au roman patriotique aussi, d'ailleurs.
Et dans cette ligne, comment s'inscrit Michel Murphy comme... qui a quand même son importance dans le roman populaire.
Eh bien, Michel Murphy est assez curieux parce qu'il a été, comme Zévaco, il a été un homme politique. C'est un des rares auteurs populaires qui a vraiment été dans la mêlée politique, dès le début de sa vie, d'ailleurs, puisqu'il avait à peine 8 ans, qu'il était sur une des barricades à la fin de la Commune. Sa mère a été tuée, et... Plus on peut dire, puisqu'elle a été violée par les Versaillais et elle est morte des violences subies. Donc ça a été un jeune homme qui a été très sensibilisé par la Commune. C'est un des premiers qui a manifesté autour de 1880. À 16 ans, il entre dans le Parti Socialiste, enfin de l'époque, il devient l'ami de Louise Michel. Il totalise 44 peines de prison en quelques années. Il lance toutes sortes de pamphlets comme l'Antiféry, la lanterne du général Boulanger.
Il avait, dit-on, la réputation d'être un sacré mangeur de curés, Michel Murphy.
Oui, il a fait le vampire, notamment sur une histoire de curé, quoi. Où il représentait l'abbé de Lac-Colon, je crois, qui était un cas judiciaire de l'époque, où évidemment c'est un abbé assassin, quoi.
Et est-ce que ses débuts dans la vie, assez durs, vont se retrouver dans ses ouvrages plus tard?
Oui. C'est un autre, surtout dans ses L'Ange du Faubourg, par exemple. D'ailleurs, Murphy va devenir le secrétaire de Bruant. Et il va écrire beaucoup de romans de Bruant. Et avec Pouget, d'ailleurs, qui est un syndicaliste, Pouget, qui est un des premiers chefs de la CGT. Donc, il y a un côté beaucoup plus social chez Murphy que chez de Courcelles, par exemple, ou chez Richebourg. Il a souffert de la misère réellement, Murphy.
Ah ben, Richebourg n'a pas été particulièrement aimé des communards.
Ah, pas du tout, au contraire. Au contraire, il était condamné à mort, je crois, pas au temps de la Commune. Et il a été, paraît-il, sauvé par Raoul Rigaud. Non, Murphy a été très sensibilisé par sa jeunesse pauvre.
À la lueur de ces auteurs, de la vie de ces auteurs, on peut certainement démontrer que dans certains cas, ou même peut-être dans de nombreux cas, le roman populaire a été le reflet des grands débats politiques de l'époque, la Commune, l'affaire Dreyfus, l'anarchie. Est-ce que les romanciers laissés tenter par ces thèmes et ces grandes vagues?
Sûrement.
Lesquels?
Pour la Commune, par exemple, on peut citer Georges Duval, qui a écrit Une virginité, mai 1871, et qui est l'histoire du viol d'une jeune femme par un Versaillais au moment de l'entrée des Versaillais dans Paris. Il y a eu aussi un auteur populaire qui a fait une histoire aussi de Ravachol, les compagnons de Ravachol, et qui une histoire qui a été interdite d'ailleurs par la censure, la seconde partie de l'histoire n'a pas pu paraître. pour la Commune, il y a eu au moins une soixantaine ou 80 romans au moment de la Commune et juste après, c'est-à-dire entre 1871 et 1880. Après, il y a eu le boulangisme. Le boulangisme, ça peut susciter de romans. Mais l'anarchie, il y en a eu beaucoup. Il y a eu cet auteur, notamment, qui a écrit sur l'anarchie.
Le secret de l'anarchiste.
Oui, Pierre Delcourt, le secret de l'anarchiste. Il y a eu aussi Léon Berthaud qui a écrit aussi Les compagnons de l'Argus, qui est une histoire d'anarchiste. Il y a eu
Gendreau,
oui, Dodor l'anarchiste, pendant la guerre 14 d'ailleurs.
Donc vous voyez là, au fond, à travers les romans populaires, on pourrait également, et à travers la prise de position de ces auteurs, avoir un tableau assez exact de la vie politique du temps.
Sûrement, l'histoire de Panama, l'histoire du krach de la fameuse banque, la Banque Générale, la Banque Catholique, tout, et l'affaire Dreyfus, alors là, il y en a eu pas mal.
Chaste et flétrie, c'est le titre célèbre d'un roman de Charles Mérouvel, de 750 pages. Le premier titre du livre populaire à 65 centimes, dans la fameuse collection éditée par Artem Fayard. C'est aussi le portrait lapidaire de l'héroïne chérie de la plupart des romanciers populaires dits de mœurs. La jeune fille pure, convoitée et violée par l'aristocrate infâme, et aimée, chastement, du jeune homme bien sous tout rapport. Écoutons ce dernier déclarer sa flamme à la belle enfant.
Je voudrais être morte.
Morte ? Quand vous pouvez être la source de tant de bonheur ? Non, écoutez-moi. La vie est bizarre et nous entraîne par des chemins imprévus. Je ne sais pas, je ne veux pas savoir ce qui s'est passé entre vous et le marquis de Chazet. Tout ce que je sais, Jeanne, c'est que là-bas vous étiez une honnête fille et désintéressée. Vous me l'avez trop prouvé. Que ce soit un moment d'ivresse qui vous ait perdu, un entraînement, ou que vous ayez été la victime d'une ruse, d'un piège, je veux l'ignorer. C'est du passé. Les autres vous abandonnent. Moi, je vous reste. Aimez-vous le marquis de Chazet ?
Mon Dieu, non !
Votre cœur est libre ?
On ai-je encore seulement...
Vous aimez votre fille?
La pauvre enfant, de toute mon âme.
Elle seule?
Elle seule, en effet. Si je ne l'aimais pas, je ne vivrais déjà plus.
Vous êtes malheureuse?
Oh oui.
Et vous me croyez heureux, peut-être, moi?
Vous? Sans doute.
Eh bien, vous avez tort.
Que dites-vous?
Je ne me fais pas d'illusions. Je suis un pauvre être sans avenir. Ma mère avait 26 ans quand elle s'est éteinte. Moi, j'arrive à 32 ans, et c'est beaucoup. J'ai tout ce qu'on peut désirer en ce monde, excepté les deux biens les plus enviables, la santé et l'amour. Or, l'amour qui m'est jamais paru contenir toutes les félicités, c'est le vôtre. Quand vous m'avez repoussé, je me suis dit que jamais je ne m'attacherai à aucune autre femme. Et je n'ai pas vécu un seul jour sans penser à vous.
Est-ce possible ?
Il faut que je me confesse jusqu'au bout. Notre nature humaine est mauvaise. En apprenant votre malheur, je me suis réjoui. C'était pour moi comme une revanche de vos dédains. Mais en vous retrouvant à Besançon pendant ce voyage que nous avons fait ensemble, en vous voyant lasse, épuisée, si triste, toutes mes pensées lâches se sont envolées comme par enchantement. J'ai été pris de pitié pour vous, si belle, et que je savais si bonne. Et j'ai compris tout de suite que cette pitié, c'était de l'amour exclusif, élevé, tout puissant. Je ne vous ai jamais oublié une minute.
Oh, Fernand.
Je vous regrettais amèrement. Depuis notre rencontre, je n'ai fait qu'un rêve. Celui de vous posséder, de vous avoir à moi, de vous garder toujours comme ma maîtresse ou autrement. Et je n'ai pas vécu un seul instant sans m'occuper de vous en attendant l'heure où vous viendriez à moi. Je ne suis pas exigeant. Je ne vous demande pas d'amour. Je vous demande une amitié tendre, indulgente et douce. Voulez-vous être à moi ?
Votre maîtresse ?
Non, Jeanne. Je croirais profaner mon idole. Ma femme.
Oh.
S'agissant des romans de KPDP, vous avez, il y a quelque temps, Jean Leclerc, parlé de ce besoin de justice des foules. Ce besoin de justice, on le retrouve bien sûr dans les romans dits romans de mœurs, romans à caractère social.
Dans la deuxième moitié du XIXe siècle et jusque 1914, ce roman populaire social était d'une importance prépondérante dans la masse énorme qu'est le roman populaire. En effet, dans le roman populaire social, les lecteurs se posent toutes les questions possibles et imaginables. D'abord, évidemment, ils cherchent à se distraire, d'où des romans très compliqués, très longs, avec des milliers d'aventures, des péripéties sensationnelles. Et chaque semaine, comme c'était publié souvent en feuilleton, et que mes parents, mes grands-parents lisaient à la semaine comme ça, à la fin du feuilleton, il y a un rebondissement. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine ? Néanmoins, les questions qui sont posées, c'est la misère, d'abord. La misère qui est constante. Qu'est-ce qu'on devient si on perd son travail ? Qu'est-ce qu'on devient si on est mal vu ? Si on est chassé ? Qu'est-ce qu'on devient si on est impliqué dans une aventure et qu'on est innocent ? La police ne fait pas de cadeaux, vous arrête. Vous questionne, on réussit très facilement, avec les méthodes policières de tout temps, à prouver qu'un innocent est coupable.
À partir du milieu tout de même du 19e siècle, on remarque que presque systématiquement, les bons, c'est le peuple, les mauvais, c'est l'aristocratie ou la bourgeoisie parvenue. Est-ce qu'il n'y a pas là tout de même une exagération du manichéisme simple ?
Non, il ne me semble pas, parce que toute une partie d'écrivains populaires a travaillé, au lieu de dépeindre le peuple ou des aventures populaires, a dépeint la bourgeoisie. Et il y a un gros problème qui se pose entre nous, entre des camarades et moi, à savoir si des écrivains qui dépeignaient la bourgeoisie faisaient là une œuvre, antisociale ou presque antisocialiste, était un peu manipulée par les couches sociales dirigeantes et inoculée au peuple un certain conformisme, une certaine acceptation du fait social. Je ne crois pas. En toute sincérité, je ne le crois pas, et je suis en opposition absolue avec des camarades qui ont cette version, qui se trouve d'ailleurs reproduite par Maurice Dubourg et Jean Tortel dans le numéro spécial de Europe consacré aux romans populaires. Il faut savoir que un jour, j'ai lu que Mauriac avait écrit Les ouvriers, les ouvriers, je ne les connais pas bien, c'est un autre monde. Mais pour nous, du peuple, les gens riches, on les connaît encore moins, et c'est tout à fait un autre monde.
Georges Clavigny, comme beaucoup d'autres romanciers populaires, se complaît à décrire le luxe rococo des hôtels particuliers, des hôtels cossus, dans lesquels il loge l'aristocrate dépravé et violeur de filles du peuple. Tout y est, lourdes tentures, plantes vertes, galeries de tableaux, dorures, etc., etc. Le décor stéréotypé des pièces de Lavedan, de Capu, d'Hervieux et consorts. Un extrait de « Séduite et vengée », autre titre révélateur de Georges Clavigny.
Il la précéda dans le splendide escalier, encombré de plantes vertes des plus rares, couvert d'admirables tapis orientaux, orné de tableaux de maîtres d'un prix inestimable. Dans l'escalier, déjà, la richesse débordante de toute la maison empoignait les visiteurs. Les toiles merveilleuses qu'ils admiraient auraient fait l'honneur d'une galerie de tableaux princières. Mais les salons et la galerie de peinture étaient pleins de toiles plus belles encore. Aussi se prenait-on à rêver sur l'énormité de la fortune des maîtres de cet hôtel qui leur permettait de placer dans l'escalier des merveilles dignes des palais. Elle montait cet admirable escalier, jetant des regards sur les murs, sur les draperies jetées çà et là, par-dessus la rampe de marbre blanc ornée de cuivre ciselé avec une finesse extrême et dorée au feu avec le soin d'un doreur du Premier Empire. Au premier étage, une galerie s'ouvrait en face de l'escalier, éclairée par d'immenses fenêtres donnant sur le jardin. Les murs de cette salle étaient couverts de tableaux qu'on estimait à plusieurs millions. Cette galerie précédait les grands salons qu'on n'ouvrait qu'à l'occasion des grandes réceptions, et l'enfilade de ces salons occupait tout ce côté de l'hôtel Stéphane. Les appartements de l'agioteur se trouvaient en retrait, de l'autre côté du jardin, et les fenêtres de sa chambre occupait l'angle qui avait vu sur l'avenue de Marigny. L'escalier qui montait aux appartements d'Alfred était en tout point semblable à celui qui conduisait au premier étage. Et le luxe de tableaux, de plantes rares, de tapis orientaux en était identique. La galerie cependant n'existait pas au second étage. L'espace qu'elle occupait au premier se divisait en deux pièces. La première formait petit salon d'entrée, la seconde, une sorte de grand hall meublé en atelier, servait à Alfred Stéphane pour recevoir ses amis. Un fumoir, un petit salon, un autre salon plus vaste, une bibliothèque immense, dont les livres luxueusement reliés n'étaient jamais ouverts, puis la chambre à coucher du jeune homme. Voilà comment se trouvait disposé cet étage de l'hôtel, desservi par un escalier partant du cabinet de toilette d'Alfred.
Et dans la mesure où des gens comme Jules Marie écrivaient sur les classes sociales riches, ils renseignaient le peuple. Et je ne crois pas qu'ils endormaient le peuple parce que c'est une série d'affreuses histoires qu'ils écrivent sur la bourgeoisie. Adultère, captation d'héritage, on en a pour son argent.
C'est une forme de dénonciation, à votre avis, alors, plutôt?
C'est un gros mot. Mais il explique des trucs vraiment pas jolis.
Je vais vous donner quelques titres de romans, Jean Leclerc, qui, à mon avis, sont symptomatiques. Il y a eu Le crime d'une sainte, La môme aux beaux yeux, La buveuse de larmes, Chaste et flétrie, Le péché de la générale, Mortes et vivantes, etc., etc. Vous remarquez que, dans ces titres, la femme joue un rôle, semble être le personnage essentiel. J'en passe Midinette et Nouvelle Riche, La ronde d'amour, La dame ou Ouistiti. Le million de la bonne, oui. La femme semble être vraiment le personnage essentiel des romans de l'époque. Pourquoi ?
C'est facile à comprendre. Si le misérable du 19e siècle, c'est l'ouvrier condamné à travailler, toujours, et qui, jusqu'à la fin de sa vie, avant les assurances sociales, il n'y a plus misérable que lui. C'est la femme. Parce que la femme est Ah oui, elle triomphe, vous faites une certaine moue. Bien sûr, à l'âge de 20 ans, quand elle est belle et qu'elle réussit certains succès, n'est-ce pas ? Mais le sort de la femme est un sort affreux dans toutes les sociétés qui l'ont précédé. Seulement maintenant, on voit apparaître une certaine libération de ma femme.
Vous avez même prononcé une phrase dans un texte, vous avez parlé de la femme colonisée par l'homme. Ça nous a effrayés, j'avoue.
Oui, le noir est le colonisé du blanc et la femme est la colonisée de l'homme, c'est
enfin,
sûr.
Tout au moins au milieu du 19e, n'en parlons pas aujourd'hui tout de même.
La femme pauvre, la femme ouvrière doit toujours travailler. Maintenant, je vis dans le Berry et la femme reste à la maison le dimanche pendant que les hommes vont chasser et finissent la journée au bistrot. Avant, elle pouvait aller au vêpres et au salut. Maintenant, elle a la télévision. Il y a un progrès.
À l'hôpital, c'est l'heure de la visite. Médecin en chef passe devant les lits. Numéro 13, qu'est-ce qu'elle a cette petite ? C'est la blessée qu'on amena cette nuit. N'ayez pas peur, faut que je sonde vos blessures. Deux coups de couteau, près du cœur y a plus de sang. Non pas perdu, à votre âge on est dur. Seulement tout de même, faut prévenir vos parents. Mais la mourante alors a répondu: je suis toute seule depuis que maman n'est plus. On m'appelle l'hirondelle du faubourg. Je ne suis qu'une pauvre fille d'amour, née un jour de la saison printanière, d'une petite ouvrière. Comme les autres, j'aurais peut-être bien tourné si mon père, au lieu de m'abandonner, avait su protéger de son aile l'hirondelle. Le docteur reprit: vous portez une médaille, c'est un cadeau, sans doute, de votre amant. Non, c'est le souvenir de l'homme du rien qui vaille, de l'homme sans cœur qui trompa ma maman. Laissez-moi lire André-Marie-Thérèse, mais je la reconnais, cette médaille en argent. Et cette date, avril 93, laissez-moi seul, je veux guérir cet enfant. Vous me regardez tous avec de grands yeux, c'est mon devoir de soigner les malheureux. On l'appelle l'hirondelle du faubourg, ce n'est qu'une pauvre fille d'amour, née un jour de la saison printanière, d'une petite ouvrière. Comme les autres, elle aurait bien tourné si son père, au lieu de l'abandonner, avait su protéger de son aile l'hirondelle. Numéro 13, toujours 40 de fièvre. Oui, ça ne va pas comme je l'avais espéré. Je vois la vie s'échapper de ses lèvres et rien à faire, rien pour l'en empêcher. Je suis un savant, j'en ai guéri des femmes, mais c'est celle-là que j'aurais voulu sauver. La v'là qui passe, écoute, retiens ton âme. Je suis ton père, ma fille, ma bien-aimée. Je ne suis pas fou, je suis un malheureux. Vous, mes élèves, écoutez, je le veux. On l'appelait l'hirondelle du faubourg. C'était une pauvre fille d'amour, née un jour de la saison printanière, d'une petite ouvrière. Comme les autres, elle aurait bien tourné si lâchement, au lieu de l'abandonner, j'avais su protéger de mon aile l'hirondelle.
Léo Mallet, vous avez appris à écrire, nous avez-vous dit, dans les romans populaires.
Oui, enfin, j'ai appris exactement à écrire. Moi, j'ai su lire très jeune. J'ai su lire très jeune et je lisais surtout des publications pour enfants, c'est-à-dire La Jeunesse Illustrée, Les Belles Images, Et là-dedans, je lisais les romans qui étaient publiés, des romans illustrés qui étaient publiés dans ces publications. Et c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le roman populaire, c'était dans un français extrêmement correct. Et ça n'était pas comme la bande dessinée de maintenant, n'est-ce pas, où on voit simplement des personnages. Dans les ballons, il y a des vroom, 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 vroom.
Le texte en dessous.
Le texte, oui, c'était le texte en dessous. Il y a un texte, j'ai relu récemment certains numéros de la Jeunesse illustrée et des Belles images, et j'ai été surpris de voir que c'était vraiment d'une très grande... en français extrêmement correct. Alors moi, j'ai commencé par lire ça. Puis alors après, j'ai lu les romans populaires, notamment Les Deux Orphelines ou des choses de ce genre, La Dame en Noir de Richebourg, et j'ai trouvé là-dedans la même qualité. Alors ce qui fait que quand je me suis mis à écrire de bonne heure, j'avais 8 ans quand j'ai commencé à écrire un roman qui s'appelait Le Trésor des Mormons, que j'illustrais moi-même, je m'inspirais un peu de ce que j'avais lu, bien sûr.
Lacassin dit, et je crois qu'il a raison, qu'on peut distinguer trois grandes périodes dans l'histoire du roman populaire. Une période dite classique jusqu'à la moitié du 19e, une période dite la belle époque du roman populaire qui va jusque, disons, la guerre 14-18, oui. 1920, puis l'après-guerre. À votre avis, quelle fut la plus belle période pour les romanciers populaires?
Ah, mais je crois que l'âge d'or du roman populaire ne va pas jusqu'en 1920, mais va de 1900 à 1914, c'est-à-dire de 1890 à 1914. Et puis peut-être pendant la guerre de 14, mais avec des romans patriotiques. Mais je crois qu'à partir de 1920, le roman populaire a dû baisser. Il a dû être remplacé par des traductions anglo-saxonnes, des choses comme ça, et puis est arrivé le roman policier. Le roman populaire, c'est le mélodrame. D'ailleurs, ça n'est pas pour rien que Les Deux Orphelines, le roman a été écrit d'après un mélodrame, n'est-ce pas ? Comme La Tour de Nesle. Aussi. Le roman populaire est une chose vraiment d'une très grande complexité, vous voyez. Mais la bande à Fifi Voleur donne, je crois, évidemment je ne vivais pas à l'époque, je crois un tableau assez véridique des mœurs de l'époque dans ce que Macorlan appelait les classes dangereuses.
Constant Guéroux, d'ailleurs, dans le texte même de son roman, à un moment donné, pour montrer qu'il suit certains écrivains, il dit textuellement « mes personnages, mes décors, etc. sont tout à fait pareils à ceux des Mystères de Paris ». Après avoir, lui, dressé ses décors et montré ses personnages. Au fond, c'est, à mon avis, la bande à Fifi Voleur, l'affaire de la rue du Temple, plus un roman documentaire qu'un roman policier.
Avec Constant Guéroux s'ouvre le roman des bas-fonds. L'ordre social est remis en question, la morale bourgeoise contestée par les Apaches. L'action de l'affaire de la rue du Temple, dans l'extrait qui suit, se situe en 1838. Des Apaches préparent un coup, l'assassinat d'une marchande d'objets de literie qui habite rue du Temple, dans le but de lui voler son magot. L'un des bandits, le sage, vient d'avouer qu'il n'a jamais joué du surin, comme il dit. Alors il hésite. Et Soufflard, un ancien bagnard, lui donne la leçon suivante.
Ah, t'as des scrupules avec ces gens-là. Ah, tu t'attendris sur le bourgeois. Et tu crains de le saigner, comme si c'était le même sang que le nôtre, comme si nous appartenions à la même race. Mais tu ne te souviens donc de rien? Tu as été 3 fois au bagne. Rappelle-toi le départ de la chaîne. Rappelle-toi l'opération du ferment, où tu pouvais avoir la jambe broyée d'un coup de marteau. Il y en avait là des milliers de bourgeois accourus de tous les coins de Paris pour jouir du spectacle, de ta honte et de tes terreurs. Spectacle longtemps sollicité, considéré comme une précieuse faveur par ces hommes qui venaient assister à ton supplice comme à une fête. Avec l'insensibilité haineuse de Peau-Rouge se repaissant des tortures d'un blanc. Et partout sur ton passage, même en pressement barbare, partout le citadin et le paysan quittant leurs travaux, pour voir passer la chaîne, mais tout prêt à laisser là la chaîne. Il faut leur rendre cette justice pour courir à l'exécution du fameux le sage, si on leur eût donné ce divertissement suprême. Et tu as pitié de ces gens-là. Allons, tu n'as pas de sang dans les veines. Ce sont nos ennemis, te dis-je. Nos ennemis implacables. Traitons-les comme tels jusqu'au jour où ils prendront leur revanche.
Dans le roman populaire, la complaisance ne fait pas défaut. L'auteur exploite les filons, tous les filons, même celui de l'horreur. Et Constant Guéroux, encore lui, dans l'affaire de la rue du Temple déjà nommée, n'échappe pas à la règle. Le sage a tué la boutiquière. Le corps a été découvert et l'on procède aux premières constatations.
Le premier soin du médecin fut de déclarer à Pierre Renaud qu'il était nécessaire de déshabiller la morte pour qu'il pût constater l'état du corps, le nombre et la gravité des blessures.
Oui, oui, je comprends. Je vais la déshabiller moi-même.
Et il se mit à dégrafer la robe. Mais il s'interrompait à chaque instant pour essuyer les larmes qui voilaient sa vue ou pour étancher le sang qui coulait lentement par la bouche entrouverte de sa femme. Ou bien il s'arrêtait à contempler cette tête si vivante et si animée il y avait une heure à peine, et maintenant inerte, rigide, frappée de cette immobilité cadavérique qui fait frissonner les cœurs les plus endurcis, et devant laquelle se sont parfois trahis les meurtriers eux-mêmes. Le médecin fut obligé de l'aider, et quelques instants après, on pouvait apprécier, par l'état du cadavre, la lutte horrible, acharnée qu'avait soutenue la victime, et la rage qu'avaient déployée les assassins, exaspérés par une résistance à laquelle ils ne s'étaient pas attendus chez une femme, et qui pouvait les perdre en se prolongeant. À l'aspect de ce corps couvert de plaies béantes, Pierre Renaud éclata en sanglots et se jeta sur le corps immobile et rigide en s'écriant
« Ma pauvre femme, ma pauvre femme !»
C'est que c'était un horrible et navrant spectacle que celui de ce corps inondé de sang et couvert de blessures, dont quelques-unes si profondes qu'elles avaient déchiré les nerfs et les muscles comme eût pu le faire un opérateur pour une démonstration anatomique. La plus affreuse à voir était à l'abdomen. Celle-là avait mis à nu les intestins, qu'on voyait palpiter, comme si la vie eût encore animé ce corps insensible.
Encore Constant Guéroux dans la bande à Fifi Volard, cette fois. L'auteur ambitionne de peindre la pègre de son époque. Pourtant successeur de Gensu, il n'hésite pas à laisser entendre que ses propres modèles ont été presque littéralement reproduits dans les Mystères de Paris du grand feuilletoniste. On pourrait croire que c'est ce dernier qui a copié par-dessus l'épaule de l'autre.
Les instincts de débauche, de violence et de révolte qui les avaient jetés en dehors de la société, l'habitude d'une lutte désespérée, incessante et sans autre issue possible que le bagne ou l'échafaud, les sentiments de haine aveugle et de rancune féroce qu'entretenaient en eux le souvenir dévorant des tortures subies et la perpétuelle appréhension des mêmes châtiments, tout cela se lisait sur leurs traits mobiles et contractés, dans leurs yeux brûlants et inquiets. Et il y avait alors 5 000 individus pareils à ceux-ci, 5 000 forçats libérés, dont la loi tolérait la présence dans Paris, moyennant un léger impôt, perçu sur eux par la police, c'est-à-dire 5 000 tigres, imprudemment lâchés sur la société, leur ennemi et leur proie, 5 000 sauvages affamés qui sortaient chaque matin de leur sombre garni sans un sou, sans autre ressource que le vol, décidés à tout, même à l'assassinat, pour se procurer de quoi manger et surtout pour satisfaire les rêves de monstrueuses débauches incessamment caressé pendant de longues années de bagne ou de prison. Mais avant de poursuivre ce récit, quelques lignes sont nécessaires pour faire connaître, dans leur réalité scrupuleuse et terrible, les sanglants acteurs du drame que j'ai entrepris de raconter et dont les types énergiquement accusés ont été presque littéralement reproduits dans les Mystères de Paris, où nous retrouvons la femme Volard, Fifi Volard, Soufflard et la belle Aliette, incarnées dans les personnages de la Chouette, Tortillard, le maître d'école et Fleur de Marie.
Et pour en terminer avec Constant Guéroux, cet extrême étant en scène, dans un décor misérabiliste, des personnages qui ne le sont pas moins. Tout baigne dans le désespoir et le froid, la crasse et le dénuement. grâce à la farouche détermination de l'auteur de faire réaliste.
Au bout d'une heure, pendant laquelle la pluie n'avait cessé de tomber, il traversait l'esplanade des Invalides. Le vent soufflait avec violence, secouant la cime des arbres, qui faisait entendre un bruissement sinistre, ridant comme autant de petits lacs les flaques d'eau qui couvraient le pavé, faisant vaciller la flamme des réverbères sur lesquels la pluie s'abattait en grésillant avec rage.
Christy, main !
Balbutia le gamin dont le corps frissonnait et dont les dents claquaient.
Ah, il me semble que la pluie passe à travers ma peau tant j'ai le corps glacé.
Ah, tu jeûnes toujours.
On dire qu'il y a des êtres qui mangent régulièrement, deux fois par jour, qui chauffent tant qu'ils veulent et qui couchent dans un lit.
Ils travaillent, ceux-là.
Avec ça que je mène une vie de polichinelle et de sardanapale, oh là 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 là.
Qu'est-ce que t'as rapporté cette semaine, hein? Un pantalon de toile, un bonnet d'enfant, une paire de rasoirs, hein? Là, une belle poussée.
Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a plus de confiance dans le commerce. Dès que vous frôlez seulement une boutique, le marchand vous hurle comme si vous alliez avaler son étalage. J'aurais dire combien je suis choquée de ces façons. Oh non, d'un bonhomme. Que je me mettrais bien quelque chose sous la dent. Oh là là, mon estomac gronde comme une cage de lion. Ah, quant à mes jambes, elles se dérobent. Hein. Positivement, elles se dérobent. Hein. Mais on n'y arrivera donc jamais, main.
Ah, nous y voilà.
Il débouchait au milieu d'une rue longue, boueuse, sans trottoir, si mal pavée qu'on y enfonçait à chaque pas jusqu'à mi-jambe, bordée d'un côté de maisons noires et lézardées, et de l'autre par un mur à moitié écroulé. À chaque extrémité de cette rue, le vent balançait un réverbère dont la lumière rougeâtre se reflétait sinistrement sur l'eau fangeuse du pavé. Tout cela était morne, désolé, glacial, à faire passer des frissons dans l'âme.
Jean-Claude de Réper, nous sommes dans votre librairie qui est spécialisée dans l'occasion et plus particulièrement parmi toutes ces merveilles proposées aux amateurs, il y a un certain nombre de romans populaires. Et nous venons de voir Duprier et moi, une belle série des Artem Fayard à 65 centimes, il y en a quelques-uns, dont Chasté Flétri, de Mérouvel. J'ai retrouvé un volume des Habits Noirs que je ne laisserai pas passer à quelqu'un d'autre, je crois. Comment expliquez-vous, en fait, le charme que peuvent avoir ces vieux romans sur les amateurs d'à présent? Parce qu'en fait, je doute qu'il y ait des gens qui aient vu paraître en leur temps ces Artem Fayard et autres romans populaires et qui soient encore en vie. Ou tout au moins, s'ils les ont achetés, ils les ont encore chez eux. Et maintenant, il y a quand même des gens qui achètent ces romans et qui sont bien plus jeunes, en fait.
Oh, c'est exact. Ils sont surtout séduits par les couvertures. J'ai beaucoup un public visuel de la bande dessinée. Il y a eu des articles de parus dans des revues comme Phoenix, parlant des romans populaires, Fantomas, les couvertures de Staras, qui étaient assez extraordinaires, de Conrad pour Gustave Aimard. Alors au début, les amateurs ont pris ces livres pour la couverture qui les séduisait, et certains les ont ouverts et ont découvert, c'était très intéressant, que ça se rapprochait un peu pour certains du fantastique, de la science-fiction, et on commençait à les rechercher, à les demander. Ce qui était assez extraordinaire, de les faire découvrir quelque chose que leurs parents, leurs grands-parents avaient lu, faisant un pont entre les anciennes générations et les jeunes.
Il n'y a donc pas que des collectionneurs qui viennent chez vous, vous avez aussi des lecteurs.
Il y a des lecteurs, oui, plus qu'on pourrait en penser. Là, il y a beaucoup de lecteurs de ces romans populaires. On me situait dernièrement, ça se passait près de Coulommiers, à un marchand de romans repris à 3 francs, repris 2 francs. Et il me citait toutes ces vieilles personnes qui achètent le roman populaire et qui le lisent comme dans le temps. Et qui sont toutes heureuses de retrouver un vieux Carreau Coupe-Tête ou un Zévaco.
Donc on peut imaginer qu'à chaque âge, enfin, représente un même goût pour la même littérature, tout au moins roman populaire, bien sûr.
Oui, c'est exact. C'est exact. On retrouve
Des constantes, quoi. En fait.
Des constantes. Et même, on revoit des éditions de vieux romans qui se retrouvent publiés en 37-38. Ils sont malheureusement coupés. Alors les personnes s'en aperçoivent. Ils disent « Oh, tel Bousnard, il manque quelque chose ». Alors je dis « Bah oui, vous avez la vraie édition, qui est déjà 3 ou 4 fois plus grosse, écrite plus fin, et très intéressant ».
On a caviardé beaucoup de ces romans populaires quand ils ont été réédités à partir de 1935, 36, 38. Est-ce que vous pensez que ce caviardage, en définitive, n'avait pas été fait pour rendre la lecture plus facile ?
Bon, c'est exact. C'est exact. Là, c'était des feuilletonistes qui écrivaient à la ligne. Là, il y a beaucoup de leurs livres. On le sent quand on reprend, par exemple, La Baronne Trépassée, qui est reparue dernièrement dans une collection moderne. On voit tout de suite l'intrigue, parce que ça a été bien coupé, bien découpé, alors qu'à l'époque, on mettait énormément de mots pour embrouiller le lecteur.
Croyez-vous que ce soit bien honnête, en définitive, de procéder à ce genre de coupure, même pour des romans dits populaires ?
Oh non, c'est pas honnête du tout. Je préfère l'édition ancienne, qui est assez merveilleuse. Là, quand on reprend, je dirais pas Les Misérables, mais Les Mystères de Paris, dans la magnifique édition qui est sortie en grand format, mais c'est assez fabuleux. Là.
Êtes-vous vous-même lecteur de ces romans que vous vendez ?
Bien sûr, je les ai pratiquement tous lus. Là.
Alors, je vais vous citer une phrase d'un critique et je vais vous demander ce que vous en pensez. Un critique littéraire a écrit ceci. « Aimer ce genre de roman feuilleton, c'est aimer les croûtes en peinture, le mirliton en poésie et la rengaine en musique. C'est avoir perdu le sens critique révolutionnaire au bénéfice du pompiérisme et du mauvais goût général. »
C'est dit assez compliqué quand même. Pour moi, c'est retrouver une autre dimension. On pourrait presque dire la vraie dimension de la vie, les moments les plus importants, les grandes scènes d'amour qui finalement n'ont pas changé. Il n'y a que simplement les mots et les situations. Là. Maintenant, les gens sont en voiture de sport. À l'époque, c'était avec des cabs ou des voitures à chevaux. Mais ils ont toujours les mêmes situations, les mêmes amours, les mêmes préoccupations sentimentales, politiques pour certains. C'est la même chose.
Il y a donc un prolongement de ces romans populaires dans une certaine littérature de notre temps.
C'est exact, oui. Oh oui, oui, même actuellement, il y a encore des romanciers populaires.
Autre thème bateau des romans populaires, dit demeure. Le cœur, plus fort que la raison, l'amour qui étouffe le devoir, etc., etc. Un jeune capitaine doit tout à son général, un vrai père pour lui. Il tombe amoureux de la générale, évidemment beaucoup plus jeune que son mari. Ici, le romanesque aura la primauté sur le romantisme exacerbé à l'Antony. Titre du roman « Le péché de la générale », auteur Charles Mérouvel, a noté dans les premières lignes de l'extrait choisi le portrait robot de l'héroïne exemplaire de ce genre de roman qui évoque très exactement les couvertures illustrées des Fayard à 65 centimes.
Les adieux des deux amants furent longs. Lorsque 2 heures sonnèrent à la pendule en rocaille, la comtesse étendue sur son lit défait, les bras repliés sous sa tête dans une pose pleine de grâce et d'abandon, les yeux humides et à demi clos, brillant entre les longs cils qui les ombrageaient, les cheveux épars, sommeillait à demi, tandis que son amant à genoux, prêt à la quitter, la couvrait de baisers.
Adieu, Gabriel. Jure-moi de ne jamais oublier tes promesses.
Je le jure. Mais à quoi bon, puisque je n'aime que toi?
Et maintenant, je m'en vais. Oh. Ton amour me donnera du courage.
La comtesse l'entourait de ses bras, comme pour le retenir. Quand un léger bruit de pas se fit entendre dans le vestibule, et le capitaine, quittant brusquement sa maîtresse, courut à la fenêtre et l'ouvrit avec précaution. Le grand lévrier jappait sur le perron et remuait la queue en signe de joie. Gabrielle, la tête appuyée sur sa main droite, écoutait, inquiète, les pas qui se rapprochaient de sa chambre. Un coup sec retentit à la porte et la voix du général dit
« Gabrielle, ouvrez-moi !»
Glacée de terreur, elle courut à son amant.
« Sauve-toi et que Dieu nous garde !»«
Nous sommes perdus !»«
Non !» Non, fuis et laisse-moi. Tu nous perds en effet en restant plus longtemps.
Ouvre-moi.
Fuis. et qu'on ne sache jamais que tu as franchi le seuil de cette chambre. C'est la seule grâce que je demande à Dieu.
Il l'embrassa une dernière fois, enjamba le balcon et sauta d'un bond dans le jardin. Il faillit tomber sur le lévrier qui se lança après lui et le caressa en aboyant de joie. En un instant, Robert arriva à travers les bosquets en évitant les allées à la petite porte du parc, la referma et s'enfuit dans le bois.
Gabriel, ouvrez-vous ?
Afin de donner à son amant le temps de s'éloigner, elle employa les subterfuges que la femme la moins inventive met en œuvre en pareil cas.
Oh, je dormais. Je ne sais ce qu'est devenue la clé. Je ne vous attendais pas.
Enfin, elle ouvrit, pâle et défaite, tremblante, et se trouva devant son mari.
Vous avez eu recours à bien des mensonges depuis un instant.
Elle garda le silence. Il s'avança au milieu de la chambre, considéra la fenêtre ouverte, passa sur le balcon, et voyant Joël, le lévrier, revenu à son poste, il pensa...
C'est singulier. Le chien n'a pas défendu la porte.
La comtesse se tenait immobile et comme pétrifiée. Le général réfléchit et la regardant avec des yeux pleins de douleur et d'indignation.
Un homme était ici quand je suis arrivé.
Elle répondit simplement.
C'est vrai.
Robert, la mort dans l'âme, galopait sur la route de Paris.
Dans le cadre de l'action menée par certaines grandes maisons d'édition en ce qui concerne la promotion des romans populaires, la maison Rouff a effectivement joué un rôle très important. Madame Rosen Rouff, vous êtes une descendante directe du créateur de cette maison d'édition.
Jules Rouff était mon grand-père paternel. Je l'ai moi-même très peu connu, mais j'ai beaucoup entendu parler de lui. C'était le fondateur de la famille, enfin fondateur de dynastie, comme dans certaines familles. Et il est venu s'installer à Paris, il était genevois, il est venu à Paris en 1880, autant que je sache, et il avait racheté à l'époque un fonds d'édition d'une maison qui possédait les droits, notamment sur les romans de Paul de Kock, et sans doute également sur Eugène Sue, puisqu'ils ont toujours fait partie du fonds de la maison.
Est-ce que le fait que les premiers contacts d'édition qu'il ait pu avoir se sont faits avec deux auteurs comme Paul de Kock et Eugène Sue a joué un rôle déterminant dans la décision qu'il a prise de créer une maison d'édition de romans populaires?
Je pense que c'est pour ça qu'il s'est orienté tout de suite vers le roman populaire. Seulement, il faut penser que ça se passait dans les années 80, c'est-à-dire à l'époque où l'instruction est devenue gratuite, laïque et obligatoire. Et mon grand-père a certainement pensé qu'il y avait là un public en puissance qu'il pouvait exploiter, comme nous dirions maintenant. Et il a poussé sur le roman populaire. À mon avis, il a dû concevoir la chose en deux temps, le contenant et le contenu. Le contenant, c'est-à-dire qu'il a eu l'idée que ce public n'avait pas d'argent pour acheter des livres qui étaient quelque chose de cher et qu'il fallait lui donner le moyen d'acheter les romans sous une forme très bon marché, donc de les publier en fascicules, on disait à l'époque des livraisons, qui valaient quelques sous chacune et que l'ouvrier pouvait acheter en fin de semaine quand il touchait sa paye.
Et qui paraissait toutes les semaines.
Ça paraissait toutes les semaines.
Oui.
Et donc, pour ça, il fallait que ce soit des romans très vivants, très prenants, avec du suspense, encore un mot qui n'existait pas à l'époque. Enfin, à la fin de chaque livraison, il y avait toujours une action qui attendait son dénouement.
La mise en condition du lecteur. Qui attendrait la semaine prochaine avec impatience.
Exactement. En plus, il fallait que ce soit illustré, parce que c'était un public qui n'avait pas l'habitude de lire beaucoup. Il fallait aussi que ce soit facile à comprendre, enfin dans un style aisé, et que, alors ça pour le contenu de ces romans, Je pense qu'il a pensé qu'il fallait que l'ouvrier, le peuple, c'est vraiment ce public-là qu'il visait, puisse s'identifier au personnage. D'où ces multiples romans avec des personnages d'ouvriers pauvres maisonnettes, la jeune fille persécutée par les riches, etc. Mais en même temps, qu'ils finissent bien, c'est-à-dire que ça ouvre la porte au rêve, ces pauvres ouvriers devenaient riches, honorés, etc. Donc, il fallait qu'ils puissent s'identifier et en même temps idéaliser le personnage de l'ouvrier. Je crois que ce sont les caractéristiques de ce roman populaire de l'époque.
Mais est-ce qu'il a trouvé tout de suite de la matière? Est-ce qu'il a trouvé des romanciers qui avaient déjà dans leur tiroir des romans tout faits, qui répondaient à la demande de Jules Rouff? Ou bien est-ce qu'il a fallu leur commander des ouvrages spécialement écrits pour ça?
Oui, justement, je pense que c'est là que se situe, disons, le génie de Jules Rouff. C'est que, et il avait commencé donc par publier Les Mystères de Paris de Gensu, et à partir de là, il a fait écrire des romans. Notamment, il se jouait à l'époque à Paris une pièce qui s'appelait Les Deux Orphelines. Oui. Il a dû sentir que ça pouvait faire un sujet de roman populaire magnifique. Il a été trouvé Adolphe Denry et il lui a fait un contrat pour qu'il écrive un roman à partir de son drame. Et ce roman, il l'a commandé ferme, avant que la première ligne en soit écrite. Il l'a payé 25 000 francs or, dont la moitié comptant.
Un joli contrat.
Un joli contrat. Mais qui a été une bonne affaire pour Jules Rouff également, car ensuite il a commandé des quantités d'autres romans à Denry et à d'autres auteurs, toujours sur le même principe de faire écrire les romans à la commande, à Xavier de Montépin, à un nommé Maurice Jogan, qui n'est pas connu parce qu'il a écrit sous des pseudonymes, mais c'est lui, entre autres, qui a écrit Le Courrier de Lyon sous le pseudonyme de Maxime Valoris, et d'innombrables romans au titre toujours très, très évocateur aussi, L'Enfant du Régiment, Les Empoisonneuses de Marseille.
Oui, c'est les titres qui, à eux seuls, forment une sorte,
oui, Balmarié,
une sorte de poème extraordinaire.
La petite Arlésienne, L'Orpheline du Temple, enfin, L'Enfant du Divorce, vous voyez, c'était vraiment tous les mêmes thèmes, c'était un peu toujours la même chose. Mais,
vous avez du reste sous les yeux les contrats, les originaux de ces contrats passés avec Denry. J'aimerais, par exemple, que vous nous lisiez les deux, trois phrases qui stipulent à l'auteur de présenter son roman sous la forme des Mystères de Paris.
Oui, donc entre M. Adolphe Denry et M. Jules Rouff, il a été convenu ce qui suit. M. Adolphe Denry vend par les présentes à la société Jules Rouff et compagnie, ce qui est accepté, la propriété pleine et entière d'un roman qu'il s'engage à faire sous le titre Les Deux Orphelines et à tirer d'un drame portant le même titre, fait par lui en collaboration avec M. Cormont. Ce roman devra contenir la matière de 140 à 150 livraisons comme celle des Mystères de Paris. C'était donc bien la référence à ce qui était déjà publié sous forme de ces livraisons. Ça date de 1885.
Les auteurs, on dit que les auteurs populaires de l'époque tiraient à la ligne, mais là, ils tiraient à la ligne, mais dans un certain nombre, avec un certain nombre de lignes.
C'est ça, la durée était prévue à l'avance. Oui, c'était prévu à l'avance. Je pense que le schéma du roman était prévu à l'avance aussi, devait être discuté entre l'auteur et l'éditeur. Et ensuite, rédige.
Les éditions de l'époque, on en a bien sûr quelques-unes dans nos bibliothèques, font la publicité pour les romans qui vont suivre, pour les auteurs que la Maison Rouff a l'intention de publier. Mais la publicité proprement dite, parce que, ayant eu une excellente idée, encore fallait-il que Rouff puisse l'exploiter, la publicité n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui.
Il fallait quand même faire connaître le produit.
Tout de même pour lancer sa collection.
Là aussi, il a été un précurseur dans les idées publicitaires. Il en a eu, je crois, deux qui ont été vraiment géniales. Il a été le premier à faire mettre des pancartes publicitaires sur les voitures de livraison qui livraient ses livres dans Paris. C'était des voitures à chevaux, bien entendu. Et il y avait de la publicité pour les romans sur les voitures de livraison. Et une autre idée qu'il a eue également, c'est quand il sortait un nouveau roman, les 3, 4 ou 5 premières livraisons, il les distribuait gratuitement dans la rue. Ce qui fait que les gens, évidemment, les lisaient. Et comme c'était conçu pour que le public reste en haleine à la fin de chaque livraison, il était tenté d'acheter les suivantes.
C'était une méthode de vente, du reste, qui a subsisté assez longtemps après la guerre 14-18, parce que, je me souviens, étant enfant, on trouvait sur le seuil de nos portes des fascicules.
Oui, la première page de la première livraison.
Gratuitement, et ça incitait.
Apparaître jeudi prochain.
Ça, c'est fait. Mon père, qui a pris la maison après la guerre de 14-18, XIV l'a également pratiqué. Et je me rappelle, étant petite fille, j'étais très fière parce qu'on distribuait à l'entrée de mon lycée des publications qui étaient celles de mon père, car il s'adressait à ce moment-là aux enfants.
Ou plus classiquement, on mettait dans le dernier numéro de la dernière livraison le premier numéro du roman suivant.
Le premier chapitre du roman suivant pour aguicher et créer un suspense.
Et est-ce qu'on a une idée, est-ce que vous pourriez nous dire à peu près les plus gros tirages qu'il y a eu chez Rouff?
Alors là, je n'ai pas fait les recherches, non, je ne sais pas.
Ça pouvait aller, 200 000, 300 000
C'est possible, mais là, je ne peux pas vous donner de chiffres. Il aurait fallu que je recherche, je ne l'ai pas fait. Ce que je sais, c'est que mon grand-père, qui payait donc des sommes très importantes, couramment pour ses romans, puisque là, en 1885, c'était 25 000 francs, mais les romans suivants de Denry, c'était 40 000 francs. Et des francs or.
Une vente certaine.
Ça n'a pas empêché mon grand-père de faire une assez jolie fortune de cette façon-là. C'est donc qu'il les vendait très bien.
Oui. Certains critiques formulent à l'égard des romanciers populaires de cette époque. Je veux parler de ce qu'on peut appeler de ce qu'on appelle, de ce que Francis Lacassin, du reste, a défini comme étant la belle époque du roman populaire. Certains critiques font vraiment des observations extrêmement sévères à l'égard de cette littérature, et en particulier, ils ont accusé les éditeurs du temps d'avoir publié n'importe quoi, écrit n'importe comment, etc. Est-ce que...
Je pense qu'il...
Est-ce que vous êtes de cet avis?
C'est fonction du... C'est vrai. Enfin, si on pense littérature, évidemment, ça n'est pas de la littérature, mais ça s'adressait à un public particulier. Et ça, j'ai toujours vu aux éditions Rouff qu'on se préoccupe avant tout de son public, de ce qu'il peut lire, de ce qui lui plaît. Et évidemment, l'ouvrier, le mineur, enfin, ces gens qui avaient tout juste appris à lire, il n'était pas question de leur donner du Balzac ou du Zola. Il fallait leur donner un roman qui reflète leur vie. L'équivalent de ce que sont un peu les bandes dessinées maintenant.
Faut bien dire aussi qu'au rythme où on demandait à l'écrivain, au romancier d'écrire, il fallait que ça soit un peu bâclé quand même. Il n'était pas question de fignoler, non?
Mais personne ne se prenait pour des littérateurs là-dedans, évidemment. Ça ne visait pas ce niveau-là.
En définitive, ceci rejoint un peu l'opinion que certains de nos amis ont et que nous avons nous aussi, c'est que le roman populaire n'est pas quelque chose qu'on peut livrer à la critique, mais très certainement à des sociologues.
Certainement. Et d'ailleurs, on peut même se demander si ça n'a pas joué un rôle dans la montée de conscience de classe à l'époque. Tous ces ouvriers qui se sont mis à lire se sont peut-être mis à se poser des questions, justement. Je ne dis pas que le roman populaire était une école de politique, mais ça a dû aider à la prise de conscience.
Et par le biais du roman populaire, certains sont arrivés à faire dire des choses à leurs personnages et à leurs romans,
oui,
et
sûrement.
En faire prendre conscience au lecteur.
Sûrement, oui. Ça n'est peut-être pas par hasard que c'est Jules Rouff qui a publié également l'histoire socialiste de Jaurès, ensuite au début du siècle.
Oui.
Il était d'ailleurs devenu ami avec Jaurès. Je pense que tout ça s'inscrit dans une même ligne de pensée.
Vous évoquiez un instant le rôle social joué par ces auteurs. Et quand on fait un peu l'inventaire de ces auteurs, on s'aperçoit que parmi ceux qui ont décrit les classes sociales les plus défavorisées, il y avait bon nombre d'aristocrates, de propriétaires terriens.
C'est vrai. Maintenant, c'était aussi souvent des pseudonymes. Par exemple, quand Maurice Jogan prend un pseudonyme, il prend Hubert de Montpéreux, il prenait des choses comme ça parce que c'était à la mode à l'époque.
C'est peut-être parce qu'il y avait Xavier de Montépin qui lui était véritablement...
C'était un peu une démarcation du nom, j'ai l'impression.
Véritablement noble.
Oui, bien sûr. Ça, je n'ai pas d'éléments là pour vous répondre là-dessus.
Une réédition par la Maison Rouff des auteurs Maison, est-ce que vous croyez que ça aurait un impact aussi fort?
Il y a toujours les deux orphelines. Dans l'histoire de la Maison Rouff, chaque fois qu'on a eu un trou, qu'on ne savait pas quoi publier, qu'on avait besoin de faire entrer de l'argent, on ressortait les deux orphelines et ça a toujours marché. Mais les autres, je crois que ce serait très très difficile à republier de nos jours. Il y a eu une époque, quand j'étais jeune fille, où mon père m'avait demandé de relire L'Hirondelle du Moulin et un certain nombre de ces romans-là pour voir si c'était publiable. Ça faisait vraiment rire.
Alors sincèrement, on va vous poser une question indiscrète. Vous êtes allé jusqu'au bout
de L'Hirondelle du Moulin ? Non, je ne crois pas les avoir finis. Je crois que maintenant, vraiment...
Est-ce que vous avez quand même un roman populaire préféré, vous qui avez été élevé dans ce climat ?
Je n'ai guère lu que Les Deux Orphelines, je ne crois pas que j'en ai lu beaucoup d'autres.
Mais il faut... Dans le roman populaire, le grand moment attendu, et prévu d'ailleurs par le lecteur, c'est lorsque, après avoir souffert pendant plusieurs centaines de pages, un personnage se transforme soudain en Ange de la Vengeance, en Saint-Michel terrassant le dragon. Comme cette Jeanne Fortier dans La Porteuse de Pain de Xavier de Montépin.
Oui ?
C'est une femme qui désire voir monsieur.
Faites entrer.
Par ici, madame.
Vous ?
Votre terreur me prouve que c'est par votre ordre qu'on a voulu m'assassiner.
Que venez-vous faire dans ma maison ?
Je viens vous demander compte de ce que j'ai souffert depuis 21 ans. Jacques Garraud.
Jacques Garraud ? Quel est ce nom ?
C'est le vôtre.
Le monde entier sait que je m'appelle Paul Armand. Vous êtes folle, Lise Perrin.
Je ne suis point Lise Perrin, je suis Jeanne Fortier. Vous m'avez reconnue chez l'avocat.
Taisez-vous !
Je ne me tairai pas ! Dénoncé par toi et ton complice, on me cherche. On me traque. Je suis venue ici chez toi pour que la police puisse nous arrêter ensemble. Une fois pris, il te faudra bien avouer tous tes crimes.
Que se passe-t-il, mon père ?
Oh, mon enfant, chérie, va-t'en ! Cette femme est folle ! Elle insulte, elle menace !
Mais bien, mon père, il faut appeler !
Non, non !
Mais il faut qu'on vienne et qu'on la fasse chasser de notre maison !
Non !
Mais qui êtes-vous ? Que voulez-vous ?
Qu'on arrête cet homme avec moi et que justice soit faite.
Tu vois bien qu'elle est folle !
Mais père, mais pourquoi n'appelez-vous pas ?
Mais parce qu'il a peur.
Eh bien, je sonnerai, moi.
Non, Marie, non ! Non !
Mais pourquoi donc ?
Eh bien...
C'est moi qui vais répondre. Il ne veut pas qu'on sache que Paul Armand est Jacques Garraud. Le voleur, l'incendiaire et l'assassin. Après 21 ans de ténèbres et d'impunité, il sait que la lumière va briller enfin. Et il tremble.
Oh, taisez-vous. Pitié pour ma fille.
Avez-vous eu pitié de mes enfants ? Ne croit-il pas, grâce à vous, que leur mère est une misérable ? Une infâme ? Je veux, moi, que votre fille sache qu'après avoir livré ma fille au couteau de son complice, vous avez voulu la tuer de désespoir.
Oh, tais-toi ! Tais-toi ou sinon !
Je veux que cette femme parle.
Il y a 21 ans, cet homme a volé. Incendié, assassiné. Et joignant un tant de crimes, un crime plus lâche encore peut-être, il a fait croire à sa mort héroïque et m'a laissé condamner à sa place. Il a pris un faux nom et il a épousé votre mère.
Mais tais-toi donc !
Mais parlez, je le veux !
En Amérique, il fit une immense fortune et il revint vivre heureux en France, tandis que j'agonisais lentement en prison. Voulant avant de mourir revoir mes enfants, je m'évadais. Lui aussi les cherchait, le misérable. Et le hasard le mit d'abord en face du fils de l'homme assassiné par lui jadis, Lucien Labroux, qu'il voulait vous donner pour mari.
Mais comment?
Lucien Labroux aimait ma fille. Votre père eut l'audace de lui dire « Celle que vous aimez est la fille de la misérable qui a tué votre père. »
Oh, c'est horrible!
Taisez-vous!
Oui. Bien horrible, n'est-ce pas? Voilà ce que m'a fait cet homme. Voilà pourquoi il tremble devant moi. Allons, Jacques Garraud, lève-toi et dis à ta fille que tu es bien le voleur, l'incendiaire, l'assassin d'Alfortville.
Jean Leclerc, vous êtes le directeur d'une revue, un fanzine, comme on dirait aujourd'hui, pour employer le langage moderne, qui porte le titre de Désiré et en sous-titre L'ami de la littérature populaire. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots comment vous est venue l'idée de fonder ce journal ?
Oh, c'est une vieille histoire. Il y a à peu près plus de 20 ans, 25 ans, je me suis mis à collectionner des illustrés parus dans ma jeunesse. Mais tout de suite, comme je suis un homme actif, j'ai essayé de réunir des collectionneurs d'illustrés. Ne confondez pas illustrés et bandes dessinées.
Oui, oui.
Les illustrés vont de 1905 à 1935-40. Puis les bandes dessinées, qui est une autre forme de littérature juvénile, va de 35 à maintenant toujours. Bon, je réunis des collectionneurs, on fonde un cercle qui se réunit assez loin, près du canal Saint-Martin, dans un quartier populaire. Et quelques années passent, puis je leur dis, on va fonder un bulletin. Ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord parce qu'ils craignent que les directeurs, fondateurs du bulletin, directeur, c'est un gros mot qui me fait horreur.
Nous dirons fondateur, non, oui.
Si, c'est aussi un gros mot. Animateur du bulletin, je vais recevoir des lettres qui offrent des ventes d'illustrés et que je vais tout m'accaparer. C'est le dernier de mes soucis. Je suis au-dessus de ça. Mais enfin, c'est d'abord, donc, c'est fondé en 65, c'est d'abord un bulletin qui s'adresse aux collectionneurs. Et puis, il y a une mutation. Comme je suis un peu dur et que j'admets pas que l'achat, la vente d'illustrés ou de bandes dessinées m'intéresse médiocrement, ce qui m'intéresse plutôt, c'est les idées et la défense de la littérature populaire. Petit à petit, les collectionneurs vont partir et seront remplacés par de véritables amis de la littérature populaire. Et ce qui est désiré depuis à l'heure actuelle, il en est à sa 11e année, avec deux séries. Une première série qui a eu 34 numéros, la deuxième série en cours à 11 numéros, ça fait en tout 45 numéros. Ça groupe surtout des amateurs de littérature populaire. Et je crois, par exemple, que Patrice Caillot a été interviewé par vous,
oui.
Et a parlé d'un roman de Zévaco. Or, dans Désiré, sur 5 numéros, j'ai publié du Patrice Caillot et ce roman de Zévaco. Je publie qui veut bien me donner du travail. Mais, messieurs, j'ai honte de vous le dire, mais c'est pas un fanzine. C'est un tout petit bulletin tirant entre 200 et 300 exemplaires. Sur une moyenne à chaque numéro de 20 pages. Je refuse de la publicité. Je n'en ai jamais cherché. Je refuse tout abonnement intéressé. Je ne me prostitue pas. Il n'y a rien à foutre. Bien.
Roland Straietti, comment êtes-vous venu ou comment avez-vous connu Désiré ?
Eh bien, écoutez, c'est très curieux. Je me suis toujours intéressé à la littérature populaire et un jour, mon ami Jean-Louis Bouquet, qui est l'auteur fantastique que vous savez aussi, un auteur populaire sous le nom de Nevers Séverin et de Jean d'Ancenne.
C'est le plus grand auteur fantastique français aujourd'hui.
Ah, c'est le plus grand fantastique français aujourd'hui. Ça, absolument. Et malheureusement, il n'a pas suffisamment écrit et on le connaît peu. Donc, un jour, il vient me dire, mais il parle comme ça, n'est-ce pas ? Il me dit, j'ai reçu une publication très intéressante d'un monsieur que je ne connais pas. Tenez, je vous la passe. Et c'était, je crois, le premier numéro de Désiré.
Je rectifie, numéro 4.
Numéro 4,
les spécialistes.
Il y était question de Joval. C'était donc dans les premiers numéros, ça.
Oui.
Oui. Et alors, je vois qu'il est question de Joval, qui pour moi était un grand auteur des publications Offenstahl avec Moselli. C'était l'auteur de L'Espiègle Lily, entre autres. Et ça m'a intéressé. Je me suis dit, personne ne parle jamais de ces gens-là. Alors, j'ai écrit à Leclerc. Nous sommes entrés en relation. À cette époque-là, j'écrivais assez régulièrement dans fiction. J'ai fait passer des petites notes dans fiction à propos de Désiré. Et puis, alors, je suis devenu membre du cercle Désiré. Et nous avons eu des réunions. Enfin, ça a duré longtemps. Je crois que je connais Leclerc à peu près depuis le début, c'est-à-dire depuis bientôt une dizaine d'années. Et je trouve que ce bulletin est évidemment intéressant et vraiment unique en son genre. C'est une chose très remarquable et je suis très content qu'il continue à le faire.
Je voudrais poser une question à la fois à Jean Leclerc et à Roland Straigliatti. Parmi les amis de la littérature populaire, est-ce que vous avez des jeunes, des gens qui ont aujourd'hui 18 ans, 20 ans
Pas à Désiré.
Non.
Pas à Désiré parce que Désiré n'est pas axé sur les bandes dessinées. Malheureusement, à mon âge, qui est un certain âge... je ne touche pas la bande dessinée qui fait partie de la littérature populaire, incontestablement.
Oui, c'est Francis forme, Lacassin, du reste, qui l'affirme, comme étant une suite
mais qui
de,
est une
des romans populaires.
Que je oui, du reste, ça a tué en partie le roman populaire. Car les gens qui autrefois lisaient les romans populaires, maintenant lisent des bandes dessinées, des photoromans. Hein.
Yves-Olivier Martin, vous êtes aussi un lecteur de Désiré. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce magazine, dans cette revue ?
Eh bien, c'est d'abord le foyer, quoi, que ça représente. Quand j'étais passionné de littérature populaire, mais je ne connaissais personne avant de connaître Désiré. Or, chez Désiré, d'abord, j'ai trouvé les portes très largement ouvertes, une grande amitié, une grande cordialité. J'ai trouvé un cercle aussi, parce qu'il y a le cercle des amis que je me suis fait. Donc j'ai eu la chance d'être publié, de pouvoir exprimer toutes mes pensées sans aucune forme de censure, ce que je trouve très intéressant. Et en plus, je trouve que Désiré offre un éventail très large sur la littérature populaire, puisqu'il y a eu même des études sur la bande dessinée, et que vraiment, c'est en effet le bulletin unique. C'est tout à fait.
Jean Leclerc, une dernière question. Pourquoi Désiré ?
En 1912, pour acheter l'Intrépide, qui coûtait 5 centimes, ou Rouge et Blanc, qui coûtait 5 centimes, il fallait avoir ces 5 centimes. Pendant au moins 3 ans de mon enfance, je ne les ai jamais eus. Non pas que mes parents étaient particulièrement pauvres, mais c'était inconcevable. En 1912, de donner 5 centimes à un enfant pour acheter un illustré, c'était du gâchis. Et j'ai léché pendant des années les vitrines à regarder les couvertures de Morgan le pirate, Nat Pinkerton, Le Cri-Cri, Le Petit Illustré, l'Intrépide, Désiré sans pouvoir les acheter. C'est à la veille de 14 que j'ai pu les acheter. Mais ce phénomène de désir inassouvi qui a été le mien a été celui de tous les ouvriers, tout le temps, depuis 1830. Ils n'avaient pas d'argent pour acheter des livres. Et c'est pour ça qu'ils ont lu en feuilleton et qu'ils ont lu des romans feuilletons à la petite semaine, quand ils pouvaient, en se les prêtant, etc. Désiré parce que, pour les pauvres, le livre est désiré. Le fascicule est désiré. La fin de l'histoire est désirée. Le sort du roman est désiré. Désiré résume absolument toute la littérature populaire. Maintenant, ce n'est plus le cas, l'argent foisonne partout.
Un certain nombre de personnages rendus célèbres par les romans populaires réapparaissent dans d'autres ouvrages du même genre, mais sous la plume d'auteurs différents. C'est ainsi, par exemple, qu'il y a eu le filleul d'Aramis, le fils d'Athos, D'Artagnan contre Cyrano, l'enfant des mousquetaires, le nouveau Monte-Cristo, le secret de D'Artagnan et j'en passe. C'est ainsi que Jules Lermina, un auteur très fécond, qui écrivit bon nombre de romans conjecturaux et signa souvent William Cobbs, nous offrit un jour le fils de Monte-Cristo avec une préface absolument dithyrambique consacrée à Dumas père et à son œuvre. Dans la scène qui va suivre, Benedetto, fils adultérin de Madame Danglars et de Monsieur de Villefort, retrouve le baron Danglars qui, sous le nom de Larsangy, a refait une nouvelle et brillante carrière dans les affaires.
Monsieur de Larsangy, je connais votre passé.
Mais enfin, comment vous appelez-vous ?
Prenez garde, vous saurez peut-être trop tôt mon nom.
Ça, monsieur, que voulez-vous ? Je ne vous connais pas. Que demandez-vous ? Vous ne me connaissez pas. Vous venez me relancer chez moi. Qu'est-ce que cela signifie ? Je suis patient, mais ma patience a des bornes.
Vous ne me reconnaissez pas ?
Non. Et pourtant...
Eh bien, si je vous disais, monsieur de Larsangy, donnez-moi 200 000 francs et vous ne me verrez plus.
Je vous répondrai que je ne fais pas l'aumône à qui je ne connais pas.
Vous faites de la dignité. Eh bien, nous allons en rabattre. Vous ne savez pas mon nom, mais moi, je sais le vôtre.
Vous dites ?
200 000 francs. Vous me les refusez ? Vous en avez volé bien d'autres, monsieur Danglars.
Ce n'est pas
vraiment un démenti. Je pourrais vous en demander raison, la chose serait comique. On ne se bat pas avec un faussaire. Monsieur de Larsangy, que diriez-vous si, en pleine cour, aux Tuileries, on vous souffletait de votre véritable nom, monsieur Danglars ?
Misérable ! Je vais te tuer !
Allons, donnez-moi ce pistolet ! Joujou désagréable et qui trouble une conversation. Nous n'avons pas besoin de cela pour nous entendre. Seulement maintenant que nous sommes arrivés à la grande scène, à la scène de mélodrame, je vous dis ce n'est plus 200 000 francs, mais 500 000 qu'il me faut. Et comptant, en valeur et en cours. Sinon, je crie à tous votre nom.
Et que m'importe. On le sait en haut lieu. On a besoin de moi comme marchand d'argent. Vous n'apprendrez rien à personne.
J'aurai un certain détail à ajouter.
Quel détail ?
À la révélation de votre nom, j'ajouterai la révélation du mien.
Quel est-il donc ?
Quoi ? Suis-je tellement changé que vous ne l'ayez pas encore deviné ?
Votre figure ne m'est pas inconnue, mais...
Vous n'êtes pas de force avec moi, monsieur Danglars. Je ne viens pas ici sans être sûr de mon fait. Je vais d'ailleurs vous le prouver. Ancien banquier enrichi par nombre de spéculations plus déshonorantes les unes que les autres, vous avez rencontré sur votre chemin un homme qui vous a tout à coup écrasé sous son talon. Vous avez été précipité de haut, mais vous êtes de ceux qui rebondissent. Aujourd'hui, vous vous trouvez de nouveau au pinacle. Pendant de longues années, vous avez végété, mais vous avez pu de nouveau ressaisir la fortune. Vous n'êtes plus Danglars le banqueroutier, Danglars le voleur. Vous vous nommez l'Argency. Vous êtes redouté, sinon respecté. Eh bien, sachez qu'il dépend de moi de vous replonger dans la boue. Je serai, selon votre décision, ennemi ou complice. Choisissez.
Ah, je vous reconnais. Vous êtes Andrea Cavalcanti.
Vous brûlez.
C'est vous qui, vous affublant d'un nom qui n'était pas le vôtre, vous attribuant une fortune qui ne vous appartenait pas, avez prétendu vous introduire dans ma famille jusqu'au jour où la police est venue vous chercher jusque chez moi.
Parfait, votre mémoire est excellente. Je suis Benedetto, l'assassin. Benedetto, le forçat. Mais vous ne savez pas tout. Connaissez-vous le nom de mon père ?
Non. On m'a parlé d'un procès scandaleux, mais j'étais alors loin de France.
Vous étiez en fuite. Le jour où, en pleine cour d'assises, j'ai jeté ma haine et mon mépris à la face du procureur du roi, de mon père, monsieur de Villefort.
Oui.
Et maintenant, savez-vous le nom de ma mère ?
Elle n'a jamais été nommée.
Moi, je vais le faire. Elle se nommait Madame Danglars.
Elle. Oh, la misérable. Mais vous mentez. Ce n'est pas vrai.
C'était ma mère. Et je l'ai punie. Moi, le bâtard abandonné. Je l'ai punie. Car je l'ai tuée.
Tuée.
Oui, tuée. Vous savez que je ne recule devant rien. Donc, encore une fois, voulez-vous m'obéir ?
Qu'attendez-vous de moi ?
D'abord de l'argent. J'en ai assez de la misère, du vol, de ces risques incessants dans lesquels je me débats. Vous êtes riche, faites-moi riche.
Vous aurez de l'argent.
Ce n'est pas tout. Avez-vous oublié quel est l'homme qui vous a ruiné, humilié, torturé ? N'éprouvez-vous pas contre lui une haine que rien ne peut éteindre ?
Si.
Cet homme est votre mauvais génie et le mien. Oui, le mien. Car quelle raison de haine pouvait-il avoir contre moi ? Est-ce que j'avais demandé à vivre, moi ? Il m'a tenté. Lancé dans un monde où mes appétits de luxe se sont développés. Puis tout à coup, il m'a rejeté au bagne. Quant à vous, dois-je rappeler les tortures qu'il vous a infligées ? Eh bien, cet homme, nous pouvons tirer de lui une vengeance si terrible que nous le verrons torturé à son tour. Oh, quelle âpre jouissance j'éprouverai le jour où il se tendra dans les épouvantables agonies du désespoir. C'est cette vengeance que je veux, que j'aurai, Danglars. Voulez-vous que cet homme souffre, rugisse de douleur? Mettez votre main dans la mienne et que ce pacte sans pitié nous unisse à jamais.
Ah, me venger, oui, mais c'est impossible.
À nous deux, je vous jure que nous réussirons.
Non, ce serait tenter Dieu. J'ai peur de lui.
Peur ? Êtes-vous donc un enfant ? Une dernière fois, Danglars. Voulez-vous vous venger du comte de Monte Cristo ?
Ne prononcez pas ce nom. Il me fait peur, vous dis-je.
Et si je vous donnais, d'un mot, la certitude que cette vengeance est possible, facile même ? J'y ai longuement et cruellement songé. Moi aussi, j'ai eu peur de lui. Je le croyais tout puissant, inattaquable.
Aujourd'hui, j'ai découvert le défaut de l'armure.
Ah, si vous disiez vrai.
Écoutez. Cet homme a dans le cœur un amour profond, immense. C'est par cet amour que nous le tuerons. Monte Cristo est invincible, dites-vous. Vous oubliez qu'il a un fils, le vicomte Espérance. Frapper le fils, c'est tuer le père.
Oui, vous avez raison.
Unissez-vous franchement à moi et nous aurons tous deux notre revanche, aussi terrible, aussi effrayante que nous l'aurons voulu tous deux.
Et que voulez-vous pour cela ?
De l'argent d'abord.
Vous en aurez, mais encore.
Je veux que vous soyez prêt à m'obéir, à l'heure où je vous appellerai, à m'obéir aveuglément.
Et vous dites que Monte Cristo pleurera, mourra de douleur.
Je vous le jure.
Alors, je me livre à vous. Comme je le hais.
On ne pouvait pas faire cette troisième émission consacrée au romancier populaire Jean-Louis Bory sans évoquer tout de même l'image et les souvenirs de votre ami Eugène.
Ah, vous voulez parler d'Eugène Sue ?
Bien sûr. Quelles ont été les sources, disons, réelles des Mystères de Paris ?
Les Mystères de Paris ont des sources extrêmement précises, c'est-à-dire que Eugène Sue ne savait pas très bien ce qu'il allait faire. Ce qui a été merveilleux avec Eugène Sue, c'est qu'on a en lui l'auteur de romans feuilletons type. Balzac a écrit, des romans de Balzac sont parus en feuilleton. Mais Balzac, quand on pense à La Cousine Bête, Balzac pensait au fait qu'il allait être publié en feuilleton, et ça a influencé naturellement la construction du livre. Bon. Mais Balzac terminait son bouquin et le donnait à publier en feuilleton. Sand donnait des bouquins qui étaient publiés en feuilleton. Hugo donnait des bouquins qui étaient publiés en feuilleton. Sue écrivait son feuilleton au fur et à mesure. C'est-à-dire que le soir, il écrivait, la veille, il écrivait le feuilleton qui passait dans la presse le lendemain. Il y avait un système de coursier entre le journal et Sue qui faisait que Sue écrivait à chaud. Ce qui fait que lorsque Sue avait une grippe, eh ben le feuilleton s'arrêtait et c'était la catastrophe internationale. Il ne savait pas plus que les personnages ce qu'allait lui arriver. Alors, on a ici, là, le phénomène de création feuilletonesque à l'état pur. C'est-à-dire que Sue, créant, écrivant à chaud, c'est-à-dire le feuilleton qu'il allait publier le lendemain, était constamment vivait en même temps que ses personnages. Et c'est amusant de voir que le courrier, la façon dont le public réagissait, modifiait ce que Sue allait écrire. C'est-à-dire qu'on a un exemple parfait d'un texte, Les Mystères de Paris, écrit en contact étroit avec son public et presque à la limite à la demande du public.
Est-ce que vous pourriez me donner une définition lapidaire du roman populaire ?
Lapidaire. C'est le roman qui a trouvé le chemin du cœur populaire en s'intéressant aux problèmes du peuple.
Rien n'est jamais fini au royaume du roman populaire. Paul Fevalfis avait repris le personnage du bossu inventé par son père pour continuer l'histoire d'Aurore de Nevers et de son vaillant défenseur Lagardère. Jules Lhermina, on vient de l'entendre, s'est fait le continuateur de Monte Cristo. Et notre série n'est pas terminée, elle non plus. Il nous reste à parcourir, un peu trop succinctement pour notre goût, le chapitre consacré au fantastique et à la science-fiction, afin d'y retrouver Ponson du Dérail et Paul Divoix, et faire connaissance de quelques nouveaux venus. La suite, donc, au prochain numéro.
C'était roman d'amour, roman de mœurs, peinture sociale,
Pierre Dupriez, Serge Martel, Jean-Jacques Vierne, une émission diffusée la première fois le 18 août 1976.